parler tant qu'il court est porteur. Il y a ce que le nom porte d'un point de vue de l'imaginaire, social, ethnique, historique, etc. Et beaucoup l'ont dit ces derniers temps que quand on a un nom comme ça, on a quand même l'impression qu'il y a beaucoup de portes qui se ferment. Enfin, c'est pas forcément le fruit d'une stratégie idéologique, mais le fait est quand même que c'est pas toujours évident de porter un nom comme ça. Ouais. La question du nom, moi, en fait, elle est arrivée à une époque où, plus quand je suis tombé dans le domaine de la vie active, en fait, hein, dans le domaine de la vie professionnelle. Jusqu'alors, bon, à part quelques exceptions avérées de réactions racistes, j'avais pas senti mon nom, si vous voulez, comme un bagage trop lourd à porter, quoi. Je pense que le fait de marcher, le fait de se balader, c'est une bonne... j'aime bien ça, parce que bon, le corps... Il y a un rapport corporel, un rapport entre la parole et le corps, que j'arrive pas à définir, mais si vous l'utilisez, ce procédé-là, c'est pas par hasard, je pense.
Accompagnons dans la rue et dans le tramway Farid Abdelwahab, co-auteur avec Pascal Blanchard de Grand Ouest Mémoire des Outre-mer, paru aux Presses universitaires de Rennes.
Qu'est-ce qui vous fait marcher, vous, dans la vie ?
C'est faire bon an mal an ce que je fais depuis presque 20 ans, c'est-à-dire des livres et des expositions, principalement. Quoi. Mon activité tourne autour de ces deux pôles-là. Alors, expositions sous des formes différentes, hein, ça peut être des expositions dans des cadres muséographiques, comme je l'ai fait quelques fois, et ça peut être en tant que chargé de mission, ça peut être dans le cadre de programmation de festivals, voilà. Et puis édition, parce que je suis auteur j'ai pas compté, mais d'une vingtaine d'ouvrages, là. Alors qu'il est. Et donc voilà, c'est ça qui me fait marcher dans la vie. C'est, enfin, pas que, hein, là on parle de l'aspect professionnel, on va dire, mais c'est vrai que c'est une partie importante, hein, de mon existence. Et moi, ce qui me fascine, et ça peut faire le raccord d'une certaine manière avec ma présence ici à Nantes, ce qui me fascine, c'est de bâtir des projets de fond, des projets importants, des projets qui ont une signification, qui donnent un sens. Qui ont un sens et qui donnent par la même occasion, c'est celui-là qu'on va prendre, là ?
Oui,
le tramway, on court,
essaye,
alors,
si on va. Bonne monde.
Allez.
Voilà.
Bon, on va composter quand même, hein. Oui, ce que je vous disais, on continue là.
Oui, oui. Ouais.
Mais ce que je vous disais, c'est que oui, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est de construire, en fait, c'est de construire des projets qui sont qui ont un sens et qui donnent un sens pour le coup à ma petite et humble existence. Je fais des livres. Je suis pas un professionnel de la profession de l'histoire de l'immigration et de l'histoire coloniale. Hein. Je suis auteur et j'ai une formation d'historien. Et en fait, pardon.
Je crois que je l'ai vu assez
sur le temps. Hop. C'est le nom du bus, Marcel.
Jamais.
Pourquoi j'ai dirigé cet ouvrage avec... avec Pascal Blanchard, en fait, bon, avec Pascal, on s'est rencontrés il y a une vingtaine d'années lors de nos études d'histoire, justement, à l'université de la Sorbonne. Et nos chemins, depuis, n'ont cessé de se croiser à maintes reprises. Et j'ai commencé à participer, en fait, à l'écriture de chapitres dans des ouvrages qu'il a dirigés. Enfin, j'ai participé à trois ouvrages, en fait, qu'il a fait dans la collection de ce qui correspond à ce grand panoramique de l'histoire de l'immigration et des populations des Suds en Hexagone. Et là, pour le dernier, comme j'avais une connaissance des fonds iconographiques, en particulier pour la Normandie, puisque j'ai fait un premier tome sur sur les archives photographiques en Normandie, il y a quelques années. Là, j'en ai un deuxième qui va apparaître prochainement. Donc, il m'a fait appel pour diriger et coordonner ce livre après avoir réalisé deux collaborations sur deux ouvrages précédents, pour cette fois-ci diriger et coordonner l'ouvrage avec lui. En fait, moi, mes aptitudes objectivement sont moins profondes que lui et que Nicolas Bancel, par exemple, qui a aussi dirigé beaucoup de livres dans cette collection, sur la question de l'histoire de l'immigration, mais disons que c'est un champ que j'ai investi. Moi, je suis indépendant, en fait. J'ai pas fait de carrière universitaire. Je mène ma barque en tant que historien de l'art indépendant, et ce qui fait que je touche à pas mal de sujets qui peuvent paraître ne pas avoir entre eux de relations, qui finalement en ont quand même. À titre d'exemple, j'ai fait beaucoup d'ouvrages sur l'histoire des artistes ou des aventures, des artistes en voyage ou des aventuriers, des explorateurs, et cette espèce de figure comme ça de l'étranger permanent n'est pas loin finalement d'une certaine façon, en tout cas d'un point de vue symbolique, avec la figure de l'étranger en France, et puis évidemment aussi de mes origines. Moi, en fait, il y a une histoire d'amitié avec Pascal Blanchard, il y a une histoire de très de construction et de savoir éditorial et de d'expérience, en fait, de comment on construit un ouvrage d'image, comment on l'organise, comment on coordonne une trentaine d'auteurs, comment on sélectionne les images, comment on les présente, etc. C'est un travail d'espace aussi, un livre, hein, c'est une scénographie qui n'est pas en 3D, mais c'est quand même un parcours dans un espace. Bref, donc des choses qui relèvent de mes compétences. Au-delà de ça, ça a été aussi, si vous voulez, un travail qui, en tout cas, pour le... On va descendre. Ça s'est vraiment clairement manifesté pour le livre Sud-Ouest, où j'ai écrit un chapitre, que ça a relevé aussi, si vous voulez, d'une forme, on peut le dire, de pathos et de trajectoire personnelle, d'origine, quoi. La question de mes origines était aussi liée à ce travail-là, quoi.
C'est jamais neutre.
Non, c'est pas neutre. Par contre, ce qui est important, c'est de donner toute la neutralité, ou en tout cas de travailler sur... en fait, moi, quand j'ai travaillé sur le livre sur l'histoire de l'immigration, un siècle des présences des Suds dans la région Grand Quart Sud-Ouest, ça a été une expérience très intéressante pour moi, parce que... mais en même temps, c'est une expérience qui m'a fait en réalité beaucoup souffrir. Parce que en fait, il y a toute une part d'inconscient, si vous voulez, qui relève de la psychologie intime, en fait, hein, de ce que j'appelle le pathos familial, qui a ressurgi à ce moment-là. Je pensais que j'étais aguerri, que j'avais pas mal travaillé sur moi-même. Et non, ça a été en fait... j'ai travaillé pendant plusieurs mois pour la rédaction de ce chapitre. Et en fait, ça a été... Il y a eu des résurgences, il y a des images, il y a des traumatismes, disons le mot, hein, des névroses, qui au moment de ce travail, ont ressurgi de façon extrêmement violente. Et en fait, j'avais l'impression de passer à travers un feu, quoi, on va dire, d'une histoire familiale, etc., qui remontait à la surface à l'occasion de cette recherche historique, si vous voulez. Alors là où je suis assez content, c'est que, en fait, pour le dernier bouquin là, donc, que j'ai dirigé, j'avais passé la phase de maturité. En fait, là, à ce moment-là, le pathos avait été évacué par cette espèce de passage un peu mortifère, quoi, et de ce retour à la question des origines, et qui avait été évacué. Mais évidemment, c'est pas que ça. Là, je vous parle de mon histoire personnelle, parce que je trouve ça bien d'en parler aussi. Les historiens font souvent croire qu'ils sont totalement indépendants de leur sujet, que leur individualité n'a absolument rien à voir avec, qu'ils sont totalement détachés du sujet. Et en fait, je pense que fondamentalement, c'est faux. Il faut 40 ans d'expérience et de travail sur la matière et sur un sujet pour peut-être le dépasser en réalité. Enfin, je dis ça, il y en a peut-être qui le dépassent plus rapidement, mais c'est un travail qui m'a aidé. Je pense que j'ai... À titre individuel, j'ai dépassé quelque chose grâce à ce boulot-là. Et pour le coup, là, je pense que j'ai acquis une forme, en tout cas un début de maturité, justement dans la question de la recherche historique. C'est pas mal de faire une interview en marchande. Ça donne, je pense, la parole se libère plus facilement quand on est en action, enfin quand on est en marche, non? C'est pour ça que vous faites ça comme ça? Quand j'ai commencé à travailler de façon, par le biais de l'écriture sur la question de l'immigration, ce qui était étonnant, c'est que j'ai des images qui sont apparues, qui ont pris le qui se sont mises à jour d'une certaine façon et qui étaient en fait une sorte de puzzle inconscient d'un imaginaire personnel qui relevait d'un trauma et d'une histoire familiale, quoi.
J'ai écouté.
Il n'y a pas de souci.
Parce que c'est au niveau de l'handicap.
Non, c'est pas au niveau du handicap.
Parce que j'ai eu une petite réunion à Saint-Germain. Je suis partie de Saint-Germain, mais je vais à l'handicap là, c'est pas grave. Et j'ai écouté et ça correspond bien à ce que je pense.
Bon après-midi, Aline.
Oui, mais c'est pas grave si j'ai écouté.
Non, c'est pas grave.
Ça correspond à ce que je pense.
Madame me disait, vous parliez du handicap.
Ouais. Oui. Oui. Bah oui, parce que c'est vrai que. Bon, handicap, je vais vous expliquer en quelques mots. Hein. Mes parents se sont rencontrés en pleine guerre d'Algérie. Donc mon père, issu d'une famille, une petite bourgeoisie algérienne, algéroise plus exactement. Ma mère, fille d'ouvrière bordelaise, orpheline de père. Et bon, la rencontre de mes parents s'est passée dans les circonstances donc, de la guerre d'Algérie. Moi, je suis arrivé en 65. Bon, j'ai connu l'Algérie indépendante dans une famille qui avait été extrêmement... une partie de ma famille avait été assez traumatisée dans sa chair et dans son imaginaire, et dans son esprit, on va dire, par la guerre d'Algérie, donc je pense que j'ai porté effectivement, oui, les traumatismes des uns et des autres de manière tout à fait inconsciente lors de mon enfance et voilà quoi. Mais bon, c'est une histoire parmi tant d'autres. On porte tous ces traumas familiaux dans des registres ou des domaines ma foi fort différents. Bon, il s'avère que là, le substrat, c'était un substrat qui relevait de l'histoire coloniale, quoi.
On va aller voir l'éléphant.
Rendons-nous sur le site des machines de Lille où évolue un éléphant mécanique. Croisons en chemin Adeline, Philippe, Elodie et Arnaud.
Et alors là, quand vous voyez un éléphant, on est aussi proche ou éloigné de notre question?
C'est vrai que la question de la figuration, la représentation exotique est concomitante avec la forme avec l'iconographie coloniale, c'est sûr. Bon, après, je pense qu'il ne faut pas non plus être dogmatique et voir des émanations. L'exotisme aujourd'hui a pris une forme différente qui est dans la continuité, évidemment, qui est dans la continuité de la forme exotique coloniale. Hein, mais je pense, là, par exemple, moi, personnellement, j'y vois évidemment une imagerie de l'Afrique, mais j'y vois aussi une machine qui relève d'une forme d'ingénierie qui me fait penser à un petit peu à Jules Verne, où il y a une poétique qui finalement prend le dessus. Oui, c'est ça, c'est une poétique, puis l'espace, la forme onirique pour les grands et les petits, hein. C'est un univers détourné et que j'aime bien. Thank you. est intéressant de voir justement dans les expositions coloniales, c'est que ou même à travers les archives photographiques, par exemple, bon, les photographes vont représenter des artisans africains ou venant du Maghreb en train de faire un tapis, etc. Et ce qui est intéressant, c'est cette vague comme ça de représentation des petits métiers qu'on trouve aussi dans l'iconographie, j'ai envie de dire, franco-française. C'est-à-dire qu'à la fin du 19e, vous avez un certain nombre de photographes qui vont faire un répertoire aussi des petits métiers, par exemple à Paris. Et ça, je trouve que c'est intéressant, ce rapport-là. Parce qu'en fait, d'une certaine manière, je l'interprète comme ça, d'un point de vue de l'inconscient, dans cette façon de capter une réalité, un artisanat, une figure comme ça, d'une tribu ou d'une population, on se rend compte, en fait, que les figures folkloristes prises en photographie à la fin du 19e ou les artisans du Bénin ou du Sénégal ou de la Côte d'Ivoire sont quand même des gens qui relèvent, à l'époque où ils sont photographiés, d'un certain passé. C'est déjà le monde d'hier. Et on est en train, à travers l'image, de le sauvegarder. Alors que la société industrielle qui se développe et qui balaye finalement ces formes d'artisanat et qui les a quasiment, enfin toutes formes traditionnelles de métier, est en train de les détruire.
Farid Abdelwahab, co-auteur avec Pascal Blanchard de Grand Ouest Mémoire des Outre-mer, paru aux presses universitaires de Rennes.